Galaxy BD sur la première.
Et avant de plonger dans ces deux livres, faisons connaissance avec les auteurs. Commençons par vous, Josolie Bouquet, bonjour.
Bonjour.
Le grand public vous connaît surtout pour vos biographies de femmes oubliées de l'histoire, hein, dessinées par Catel. Il y a eu Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Joséphine Baker, pour ne citer que celles-là. Toutes des succès de librairie, mais vous avez aussi été longuement éditeur chez Dupuis, vous êtes écrivain, biographe de Goscinny, spécialiste de Franquin, et j'en passe. Vous êtes tombé dans la potion graphique tout petit, comme au Graphix, on va dire comme ça.
J'avoue.
D'ailleurs, Josolie Bouquet, vous publiez votre premier scénario de bande dessinée à 16 ans seulement. C'est ça, hein,
Un petit peu
17.
Plus tard quand même, dans Spirou, j'ai la chance. Ouais. C'est Serge Honoré, mon ami qui publie ses premiers scénarios à 16 ans dans Spirou. Moi, c'est un petit peu plus tard, j'ai 18 ans.
Allez, 18. C'était
avec
Le Philippe Privé d'Hollywood.
Le Privé d'Hollywood,
avec
exactement.
Berthet. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce premier scénario?
Alors, c'est un scénario que je n'écris pas tout seul. C'est un scénario que j'écris avec François Rivière qui à l'époque est déjà le scénariste de Flock. Ils ont fait ensemble Le Rendez-vous de Seven Oaks et leur bande dessinée anglophile suivante. En fait, c'est à Bruxelles que tout commence. Je dois avoir 17 ans, un truc comme ça. On est un dîner et peut-être que je viens juste de louper mon bac. Il n'est pas impossible que je viens juste de louper mon bac. Je dis, oh là là, mais moi, je suis bon à rien, j'arrive jamais à faire quoi que ce soit. Et François me dit, mais si, tu devrais faire des scénarios de bande dessinée. Ah bon? Et voilà comment. Il me dit, qu'est-ce que tu as envie de raconter? Je devais être en train de lire Kaminsky, qui était un auteur de la série noire, qui racontait des histoires de polar à Hollywood. Et je dis, bah, Hollywood, un polar. Tu vois, le gars qui a vraiment une grosse imagination, qui retombe juste sur le bouquin qu'il a lu la veille. Et François me dit, eh ben, c'est ce que nous allons faire. Et c'est comme ça, en fait. Pour moi, c'est un livre d'apprentissage. Il m'apprend à structurer une histoire, il m'apprend à dialoguer. Ah bon, il suffit d'écrire comme ça et tout à coup on a des personnages qui parlent. J'apprends à faire un scénario de bande dessinée tout simplement. Donc et puis le travail de Berthet est absolument démentiel, hein. Il doit juste sortir du fameux atelier R et il est en pleine possession. Il est à la fois dans la ligne médiane du franco-belge et aussi de toutes les expériences graphiques qui sont en train de se faire à l'atelier R.
Raviré, on vous a découvert grâce à une collaboration avec le regretté Franck Giroux, il y a un peu moins de 15 ans. Depuis, on vous a retrouvé avec d'autres scénaristes, notamment aujourd'hui avec Josolie Bouquet, adaptateur d'œuvres littéraires aussi, ou en solo. Qu'est-ce qui guide vos choix de dessinateur?
Surtout des histoires qui me touchent. J'ai envie toujours de raconter des histoires et de transmettre l'émotion des personnages. C'est surtout des personnages qui m'attire à raconter son histoire. Alors, je dois trouver quelque chose qui m'arrive, qui me touche. Je ne trouve un autre mot pour le décrire. C'est ça, c'est le personnage le plus important, toujours, plus que le contexte. Et c'est ça. Et à niveau d'auteur personnel, j'ai beaucoup d'envie d'écrire, toujours. Mais j'ai envie aussi de collaborer avec des scénaristes, de travailler en équipe. C'est les deux chemins que j'aime beaucoup.
Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez à la fois le scénariste et à la fois l'adaptation littéraire que vous avez déjà pratiquée, puisque c'est du Simenon revisité par Josolie Bouquet qui vous amène ici derrière le micro.
Je ne m'aime pas. Je ne me considère pas comme un homme agréable à fréquenter. J'ai horreur de me fréquenter moi-même, car si j'aimais me fréquenter, je ne serais pas romancier. Un romancier est un monsieur, je ne dirais pas qu'il se déteste, mais qui n'est pas du tout content de lui, qui est si peu content de lui, qui est obligé d'en sortir tout le temps pour créer des personnages.
Voilà, une des quelques centaines d'heures d'interviews données par notre ami Simenon, Georges Simenon. Vous les avez toutes écoutées, Josolie Bouquet, jadis.
J'ai eu la chance, il y a une vingtaine d'années, de produire pour France Culture une émission de 8 heures. Non mais à l'époque, France Culture, il faisait des 8 heures sur Georges Simenon. Et donc, ça impliquait d'écouter absolument tous les enregistrements radiophoniques de la RTBF. Donc bien évidemment, j'ai entendu déjà l'extrait que vous venez de passer. Et c'était assez intéressant d'écouter Simenon. L'extrait que vous donnez, c'est quelqu'un qui parle énormément de son travail sans être introspectif, qui donne des exemples. Et surtout, son exemple, c'est de dire oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et oui, c'est en écrivant qu'on devient écrivain, et non pas écrivaillon, comme le disait Queneau. Et c'est toute la leçon de Simenon. 200 romans populaires sous pseudonyme en 10 ans. Hein, tout ça pour arriver à faire du roman semi-littéraire. Ça va être au début des années 30, Maigret, qui pour la première fois signe de son propre nom, pour ensuite en arriver au roman dur. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que après avoir produit ces huit
heures... Précisément, parce que ces romans durs, ce sont ceux que vous êtes en train d'adapter.
Mais qu'auparavant, avant d'adapter les romans de Simenon, surtout, en ayant quitté cette émission de France Culture, ben je me suis mis à écrire mes premières séries noires en me disant « Mais il a raison, Simenon, en fait, il suffit de bosser, vas-y, bosse !» Donc moi, comme Simenon, j'étais prêt à faire un roman tous les trois mois s'il le fallait, mais la série noire m'a dit « Oh, non mais un par an, ce sera bien !»
Voilà. Du coup, vous êtes
donc devenu... je dois tout à Simenon.
Vous êtes devenu scénariste de bande dessinée, là on n'a pas de limite. Voilà. On peut écrire tant qu'on veut. Et d'ailleurs, ce n'est pas votre première adaptation de Simenon, puisque ce livre, Barrio Negro, il vient dans une collection. Cette collection, vous la menez avec Jean-Luc Fromental, et c'est une série d'auteurs, de dessinateurs qui sont invités à vous rejoindre. Vous êtes les deux adaptateurs. Alors ici, il y a un petit changement de titre. Hein.
Alors il y a un petit changement de titre.
Vu à l'époque.
Qui, voilà, alors c'est vrai que le titre original, c'est Quartier Nègre, mais c'est un roman qui a été choisi par Ravi, ici présent, puisque l'idée, c'est que chacun des dessinateurs doit évidemment trouver un livre qui corresponde à sa vision de Simenon et aux atmosphères qu'il sera capable de reproduire, et surtout les émotions qu'il sera capable de provoquer chez le lecteur. Et chez Ravi, c'était Barrio Negro.
Donc, puisqu'il l'a lu en espagnol.
Et je l'ai lu en espagnol et en fait c'est une casualité parce que moi j'ai lu que deux romans de Simenon dans ma vie et tous les deux il y a plus de 20 années que je les ai lus et à une époque où j'étais très curieux et je lisais beaucoup de choses qui m'arrivaient sans filtre et dans ma bibliothèque, dans la bibliothèque de ma ville j'ai trouvé Barrio Negro. Le nom de Simenon me disait quelque chose, mais je n'étais pas un expert, ni je ne connaissais pas son côté policier. Et alors j'ai lu Barrio Negro, j'ai adoré. Et 20 années après, j'ai la proposition de dessiner un album qui est une adaptation de des romans durs. Et j'ai demandé si Barrio Negro était un des romans durs. Et voilà, c'est
et
la
boom.
Casualité.
Boom, c'était le bon. Ça. Et ça marche quand même mieux que Quartier Nègre aujourd'hui, il faut même le dire.
Exactement.
On est en 2026.
Et c'est resté le titre, évidemment, dans la mesure où c'était comme ça que le connaissait Ravi et que Gorzou a dit « Mais tu sais, en français, ça veut dire Quartier Nègre et autant... noir, négro en espagnol et plutôt neutre, nègre en France aujourd'hui, c'est juste impossible. Ouais. Voilà. Et donc très rapidement, et de toute façon, ça a toujours été notre titre de travail, Barrio Negro. C'est difficile de passer son temps à dire « Alors, t'en es où de Quartier Nègre ?» Alors là, je suis en train de faire Quartier Nègre. Non mais, tout simplement parce qu'aujourd'hui, bien sûr, pour nos propres oreilles, pour notre propre pensée, c'est... Comment travailler sur un livre dont c'est le titre. Alors que tout ce que ça raconte,
j'allais
est
dire,
bien le contraire.
C'est pas du tout un livre raciste. Il faut quand même le signaler d'emblée. C'est un livre qui va à l'encontre du racisme, puisque Georges Simenon nous emmène à Panama. Ce fameux quartier se trouve à Panama City, mais pas du tout en Afrique. Et il va y plonger un jeune garçon plein de promesses, qui vient de se marier, qui croit qu'il va aller travailler là-bas. D'ailleurs, c'est pas à Panama qu'il va, c'est un peu plus loin. Et qui pense que la vie va être facile. Et puis, lorsqu'il arrive à Panama, qui est une étape pour aller un peu plus loin, je crois que c'est en Guyane qu'il doit aller, il se rend compte que la compagnie qu'il a engagée a fait faillite et il n'y a plus de sous. Il va rester là et il va vivre là-bas complètement à l'encontre de la manière dont vivent les Européens, les Blancs, ou les Américains d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'Américains là-bas à ce moment-là.
Il y a une double façon de pouvoir lire l'histoire. Ne pas oublier que c'est écrit au début des années 1930, et que d'une certaine manière, pour le lectorat de l'époque, il est en train de raconter l'histoire d'une déchéance. L'histoire d'un homme qui, finalement, c'était un terme qu'employait Simenon, sans canac. Hein, c'est-à-dire que tout à coup, il fait fi des contingences bourgeoises, des contraintes de la société, pour un vrai lâcher-prise. Ça, c'est un terme que j'utilise aujourd'hui. Mais évidemment, dans les années 30, on se dit ce Simenon est en train de nous raconter l'histoire d'une déchéance. C'est une grande thématique tout à fait passionnante chez Simenon d'ailleurs, qui est la fuite du monde. Il y a même un de ses romans qui s'appelle « La fuite de Monsieur Monde ». Voilà. Et qui raconte ça, c'est-à-dire tout à coup, à un moment donné... Le mec, il rentre pas chez lui. Il s'en va. Ça suffit, cette vie. Et c'est tout le propos, finalement, de notre personnage qui, face aux circonstances, plutôt que d'accepter la pression de la société bourgeoise, entre guillemets, parce qu'il est quand même au milieu de gangsters qui sont en bourgeoisie et qui aimeraient bien le tirer vers eux, lui, tout à coup, lâche l'affaire. Soit c'est l'histoire d'une chute, soit c'est l'histoire du saut de l'ange. tout dépend de quel point de vue de la société, de quelle manière on regarde la société.
Javier, qu'est-ce qui vous a plu à l'époque et qu'est-ce qui vous plaît encore aujourd'hui dans ce roman? Est-ce que c'est la même chose d'abord? Ou est-ce qu'en 20 ans, ça a changé?
Non, c'est la même chose. C'est un peu ça qu'a raconté Josué. C'est art du personnage principal. J'ai très clair c'est quoi mon interprétation de cette possible interprétation. Et c'est plus le côté plus de trouver sa liberté. Je dirais jusque ça. Il trouve sa liberté. Et à l'époque, j'avais 20 années et je devais chercher un peu ma propre chemin. Et ça m'a influencé beaucoup parce que c'est vrai, on a tout le temps des pressions sociales, des choses qu'on doit faire. C'est roman, pour moi, parle de trouver ton propre chemin, même si la pression, le contexte est très lourd, très fort. Alors, je pense que c'est ça qui m'a touché beaucoup. Et après, l'histoire d'amour, de désamour et d'amour comme dessinateur, c'est un cadeau dessiner ces émotions de ces personnages si profonds comme Dupuche. Alors, c'est l'histoire d'amour surtout.
Une histoire d'amour dans laquelle, évidemment, notre personnage ne va pas faire ce qu'on attend de lui. Bien au contraire, il va se retrouver carrément mis au banc.
Oui, parce que c'est une histoire d'amour avec une descendante, enfin la fille d'ouvriers importés d'Afrique, on peut le dire comme ça, vraiment importés d'Afrique pour construire le canal. Et elle, c'est une descendante, c'est Véronique, elle a un nom français puisqu'elle descend d'Antillais, mais surtout, elle est noire. Alors non seulement le gars, il décide de plus être ingénieur et plutôt d'aller un petit peu picoler, surtout d'aller travailler sur le port sans cravate. Le mec, non seulement il n'a pas de cravate, mais en plus il est avec une femme noire. Et c'est ça l'histoire d'amour qui est formidable dans ce roman de Simenon. Et assez rare.
Qui date assez rare, des années 30. Hein,
Oui, et qu'on parle, donc c'est un livre totalement scandaleux pour l'époque et d'une incroyable modernité encore aujourd'hui.
Ce n'est pas votre premier scénario dans cette collection, José-Louis, et ce ne sera pas le dernier. Au-delà du fait d'avoir des dessinateurs qui choisissent des romans, vous avez aussi vos préférés, vous?
Ah, est-ce que j'ai des romans? Simenon, c'est un continent, voilà. Et je pense que quand on aime un continent, on aime aussi bien les petites criques secrètes que les pics élevés. Voilà, Simenon, il s'embrasse comme ça.
L'art de ne pas se mouiller.
Non, pas l'art de ne pas se mouiller, mais c'est plutôt, je vous rappelle que cette émission de 8 heures France Culture, tout à coup, il a fallu que du jour au lendemain, je devienne un pur simenonien. Donc ça veut dire que tout à coup, en 2 mois, j'ai lu 150 romans. Je vivais dans Simenon. Ce qui fait que pour moi, tout se mélange. Simenon, c'est ce continent, et grâce aux dessinateurs et dessinatrices avec lesquels je peux travailler. Ah, tout à coup, c'est comme si je faisais un petit focus, vous savez, le truc Google Earth, et puis là, tiens, je vais aller sur ce truc-là. Ah oui, c'est vrai, Panama, avec Simenon, formidable.
Il faut dire que le précédent, c'était avec Edith, et que c'était dans les brumes du Nord.
Oui,
même du Limbourg.
Dans le Limbourg.
Voilà, il y a quelques mois à peine qu'il est.
La maison du canal, oui.
Ouais. Romain Renard, qu'est-ce que vous pensez de ces adaptations, vous qui avez pratiqué l'adaptation justement de votre côté, on en parlait tout à l'heure.
Je trouve cette collection magnifique et je suis en train de découvrir votre livre, à tous les deux, que je trouve merveilleux, super beau, vraiment. Et où on est à l'encontre même du cliché de Simenon qu'on pourrait qualifier de littérature noire. Et en fait, ce que je vois ici, c'est quelque chose de très solaire, très très beau. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de regarder le visage des dessinateurs et de retrouver le physique des dessinateurs dans les dessins, dans les pages. Donc je trouve ça très très beau, en tout cas.
On a une grande chance avec cette collection, c'est que chaque livre est un livre d'auteur. C'est-à-dire que Jean-Luc et moi, alors pourquoi c'est toujours nous? Parce que d'abord, on travaille sur Simenon, on connaît bien Simenon depuis très longtemps, que John nous fait confiance.
John Simenon, le fils de Simenon, qui est partie prenante de l'affaire, qui est
même moteur depuis le début sur le projet. Mais nous, nous ne sommes que des traducteurs. Et toute l'idée, c'est d'arriver à donner une traduction bande dessinée pour que les auteurs, les dessinateurs, dessinatrices, fassent leur travail d'auteur. Voilà. C'est une matière qui leur est donnée et je crois qu'il n'y a pas deux livres qui se ressemblent et je pense que chacun a donné pleine mesure. C'est pas... Il y a une véritable implication. Quand Ravi dit que c'est un livre qu'il a influencé, Barrio Negro, ça veut dire qu'il est capable de le dessiner et d'en faire un livre. C'est le sien. C'est un roman dessiné de Simenon, mais c'est le livre de Ravi.
Vous avez entendu la rubrique tout à l'heure de Cynthia.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérêt de faire de la bande dessinée à partir de la littérature? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on aime trop dessiner ou est-ce que c'est vraiment intéressant et important?
De mon côté, je peux parler du point de vue d'un auteur, de ma singularité. Et, j'avais besoin d'écrire, mais je ne me sentais pas, je n'avais pas encore la sécurité dans mon écriture. Et j'ai commencé à adapter pour gagner cette sécurité. Alors, la toute première adaptation que j'ai faite, ça a été en commande d'une maison d'édition espagnole qui est une adaptation d'un best-seller qui a marché très bien en Espagne. Mais j'ai accepté, mais avec la condition d'être libre de faire ce que je voulais faire. Et j'ai fait une adaptation presque muette, c'est-à-dire une adaptation visuelle. Alors j'ai gagné beaucoup de confiance dans la narration visuelle. La deuxième adaptation que j'ai faite, c'est une pièce de théâtre, Un ennemi du peuple. Et ça m'a donné la capacité d'écrire, de pratiquer l'écriture de dialogue, parce que c'était une transposition du langage du théâtre à la bande dessinée. Alors, après, j'ai gagné confiance pour faire mon premier scénario, que c'est sur le livre qui s'appelait « On l'appelait Bebeto ». Et c'est ça. Pour moi, l'adaptation, ça a été une manière de grandir comme auteur. Ce n'est pas le point de vue du marché, ce n'est pas le point de vue de l'auteur. Ouais.
Mais c'est très intéressant ce que dit Ravi, parce qu'une adaptation n'a de sens que s'il peut s'inscrire logiquement dans la bibliographie de l'auteur. Si c'est un pas de côté, ça n'a pas de sens. Si c'est quelque chose qui est réellement l'écho et le prolongement et l'appropriation de l'auteur, du dessinateur, oui, bien sûr, formidable. Si c'est juste parce que tout à coup, il y a un bon plan à faire, est-ce qu'on... Voilà. Alors peut-être pour énormément d'argent. Bon, d'accord. Mais sinon, voilà. Je crois qu'il n'y a pas, ouais, y a pas
c'est ce que fait Romain Renard, puisqu'il fait deux fois la même.
C'est-à-dire qu'on doit avoir, je crois, une... Je crois, oui, c'est fou. Je crois qu'on doit avoir... Voilà, c'est ça, c'est une... C'est un livre qu'on doit s'approprier et mettre dans sa propre bibliographie. Et là, ça a du sens.
Merci à tous les deux. Donc, c'est Barrio Negro, le titre désormais espagnol et français de Simenon dans cette collection chez Dargo, José Luis Bocquet et Javier. Merci d'être venus nous en parler tous les deux.
Galaxie BD sur la première.